Le troisième Grand Prix de la saison avait lieu ce matin en direct du Portugal. Bottas partait premier sur la ligne de départ, suivi de Hamilton. Donc, Mercedes monopolisait la première ligne de départ pour la 71e fois de l'histoire. Dommage pour Bottas qui convoitait sa 10e victoire, mais c'est finalement Lewis Hamilton qui l'a remporté, devant Verstappen 2e et Bottas 3e. En remplacement de Philippe Lagu aujourd'hui, on est avec Philippe Brasseur, qui est le rédacteur en chef du magazine Pole Position. Bonjour Philippe.
Bonjour Evelyne.
Bienvenue parmi nous.
Merci.
Alors, le Grand Prix, moi, ça tombe souvent pendant ma préparation d'avant l'émission. Alors, je regarde ça du coin de l'œil, la course, mais je vois pas tout en détail. Mais j'ai vu en direct Hamilton dépasser Bottas environ au tiers de la course en plein milieu d'un virage. C'était pas évident, c'était beau à voir. Et juste ça, ça me donne l'impression, et tu me le confirmeras, qu'il a vraiment mérité sa victoire et qu'il a été impérial.
Oui, c'est une très, très belle victoire. C'est une victoire à la fois, je dirais, sportive et stratégique. Stratégique parce que, justement, il a été capable d'économiser ses pneus, donc de faire les attaques, les dépassements envers ses adversaires, à la fois son coéquipier Valtteri Bottas et puis Max Verstappen, son rival pour le titre de champion du monde. Et donc, c'est vrai que c'est une très, très belle victoire aujourd'hui de Lewis Hamilton. C'est pas le Grand Prix le plus spectaculaire de la saison. Je dirais que parmi les trois Grands Prix, c'est peut-être celui où il y a eu le moins d'action, le moins de rebondissements. Mais dans son cas, c'est vraiment une très belle victoire.
Mais l'an dernier, sur le même circuit, Hamilton avait eu la position de tête. Il avait aussi eu le meilleur tour. Il avait fini 25 secondes d'avance sur Bottas et 34 sur Verstappen. On parle d'une course de rêve. Mais là, l'écart entre Mercedes et Red Bull s'est rétréci beaucoup depuis. Ça aurait pu finir autrement. Mais Hamilton étant ce qu'il est, moi, je l'appelle le Tom Brady de la F1. Faut jamais parier contre lui. Il est vraiment dominant.
Oui, c'est certain qu'il y a des gens, mais comme toute vedette, je veux dire, des grandes vedettes mondiales de sport, on l'aime ou on le déteste, hein, pour certains, mais c'est certain que pour moi, c'est assurément un des plus grands pilotes de l'histoire du sport automobile parce qu'il a un talent fou et surtout c'est quelqu'un qui fait très très peu d'erreurs. Il en a fait une au deuxième Grand Prix il y a deux semaines en Italie, mais malgré tout il a été capable de revenir en deuxième position et on a vu aujourd'hui il a fait aucune erreur, encore une fois une maîtrise complète. Alors je dirais qu'on a souvent dit que les Mercedes sont très dominantes, mais on voit que cette saison-ci elles sont un petit peu moins dominantes face au Red Bull Honda et donc je pense que là, c'est clairement Lewis Hamilton qui fait la différence. Et la plus belle preuve, c'est de voir son coéquipier Valtteri Bottas, tu l'as dit, il a fait la pole position, donc meilleur chrono, mais malgré tout en course, inévitablement, il y a une baisse de régime dans son cas.
Parlons de Lance Stroll qui a eu de mauvaises qualifications. Hein. Il a signé le 17e chrono, donc évidemment, on ne s'attendait pas à un podium de sa part, mais bon, il a finalement terminé 14e. Est-ce que c'est satisfaisant pour lui dans les circonstances?
Absolument pas. C'est vraiment okay. Une course à oublier.
Ah oui.
Ceci dit, bon, il était 13e, il a laissé repasser son coéquipier Sébastien Vettel, donc il termine 14e, ça n'a pas une grande incidence. Pourquoi il a laissé repasser Vettel? Simplement, c'est qu'à un moment donné, un petit peu plus tôt dans la course, Vettel l'avait laissé passer parce que Lance est un tout petit peu plus rapide, dans l'espoir que justement Lance aille chercher peut-être un ou deux points, comme il l'avait fait lors des premiers Grands Prix. Mais on a clairement vu cette fin de semaine au circuit de Portimao. Et Portimao, c'est particulier parce que c'est un circuit où il y a beaucoup de dénivellation, mais le vent joue beaucoup aussi. Et on voit clairement que le type de réglage, la manière dont est conçue l'Aston Martin cette année, c'est une voiture qui est très sensible justement à des variations comme cela. Et clairement, cette voiture n'est pas assez compétitive pour l'instant. Donc, il va falloir travailler beaucoup, beaucoup dans les limites du règlement parce qu'on ne peut pas vraiment faire évoluer les voitures une fois que la saison a débuté. Mais malgré tout, clairement, Aston Martin, pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est pour moi peut-être la déception de ce début de saison.
Mais donc pas le pilote, la voiture. C'est Aston Martin qui est plus coupable que Lance Stroll, présentement.
Tout à fait. Okay. Oui, absolument. Aucun doute là-dessus.
Alors, tu me parlais de Portimao. Parlons-en de ce circuit qui est quand même méconnu. Hein. Il a été construit en 2008, mais il a figuré au calendrier de la F1 seulement l'an dernier et là. Et comme en 2020, l'événement portugais, c'est une épreuve qui est souvent ajoutée à la dernière minute là, pour remplacer un peu celle qui devait avoir lieu en Asie, je pense. Comment as-tu trouvé le circuit? Est-ce que ça a vraiment un impact sur les coureurs d'être en terrain moins connu comme ça?
En terrain moins connu, pas vraiment, parce que c'est vrai qu'en Formule 1, il y a tellement de simulations qui est faites par ordinateur, donc dans les ateliers de l'équipe, que les pilotes et leurs ingénieurs, tous les techniciens de l'équipe arrivent en terrain quand même très, très connu. La seule chose qui peut arriver, c'est sur des pistes, justement, comme le circuit Gilles Villeneuve à Montréal, où à cause de la poussière, étant donné qu'il n'y a pas d'autres courses dans l'année, parfois les équipes sont un petit peu surprises. Mais dans le cas de Portimao, c'est une piste permanente. C'est un circuit quand même de 4,6 km. C'est un très, très beau site, hein, Portimao. On est vraiment en Algarve, là, une très belle région du sud-ouest du Portugal. mais c'est certain qu'il y a les vents de la mer qui arrivent, donc inévitablement, c'est une piste un petit peu avec beaucoup de dénivelé, c'est un petit peu surprenant, mais ceci dit, c'est davantage les conditions climatiques qui vont faire en sorte que les équipes peuvent être surprises. On l'a vu avec justement Max Verstappen hier et son coéquipier Sergio Perez de l'écurie Red Bull, ils ont un petit peu manqué leur chrono en qualification parce que justement le vent s'est levé à la fin de la session, ils n'ont pas été capables de rééditer les chronos qu'ils avaient faits au début de la séance. Donc je dirais que c'est vraiment cet élément-là qui a joué un petit peu, mais c'est vrai que dans le cas du Grand Prix du Portugal, on ne sait pas si on va le revoir, par exemple, l'année prochaine au calendrier, ce Grand Prix-là, parce que, comme tu l'as dit, il a été ajouté pour remplacer l'annulation des Grands Prix de Chine et du Vietnam.
Il y a plusieurs pilotes aussi en fin de semaine qui se sont plaints de la congestion en qualification. Est-ce que c'est le fameux virage 13 qui est responsable de ça en partie?
Oh, un pilote de Formule 1, il va toujours trouver. Si c'est pas le virage 13, ça va être le 14, ça va être le 2, ça va être le 3. Ils ont toujours, dans le manuel des parfaites excuses du pilote, c'est certain que ce genre de choses se trouve toujours disponible lorsqu'il y a un micro qui est tendu vers eux après la séance. Non, je dirais que c'est clair que chaque circuit a ses spécifications et Portimao, c'est un beau circuit, mais je dirais qu'il n'est pas plus compliqué ou pas plus difficile. Si on se souvient, il y a deux semaines à Imola, on était face à un tout autre circuit en termes de configuration, très plat avec beaucoup de chicanes, contrairement à Portimao avec des virages rapides généralement. Et malgré tout, les pilotes, on voyait qu'il y avait sensiblement le même genre de difficulté dans leur réglage. Donc, c'est certain. Il faut comprendre aussi qu'une Formule 1, on est une seconde plus vite ou moins vite et on perd 10 à 12 positions. Donc, c'est très, très pointu comme réglage.
Bon, alors Philippe, je veux absolument profiter de ta présence pour t'entendre sur la très grosse nouvelle qui est tombée cette semaine. Groupe Octane, organisateur du Grand Prix de Montréal, qui est racheté par Bell. François Dumontier qui en reste à la tête. Je t'avoue que personnellement, j'ai un petit malaise avec ça. Bell étant une entreprise qui vaut 50 milliards, qui devient promotrice d'un événement international dont les droits de présentation au Canada sont entièrement financés par les paliers de gouvernement. Et là, les gouvernements qui s'engagent en plus à débourser 5,5 millions sur 3 ans en publicité pour mousser l'événement. Et le gouvernement a fait toutes ces annonces-là en sachant pertinemment la transaction qui allait être annoncée 48 heures plus tard. Qu'est-ce que t'en penses? As-tu le même malaise que moi avec ça?
Ben, c'est certain qu'il y a toujours, il y a deux manières de voir les choses. Soit on considère que c'est pas la logique, c'est pas comme ça qu'on devrait procéder, c'est-à-dire que les gouvernements ne devraient pas investir dans des événements comme ça privés de sport et de loisirs. Mais à ce moment-là, ça ne concerne pas juste le Grand Prix du Canada de Formule 1, ça concerne toute une série d'autres événements.
Tout à fait.
Où on considère que c'est acceptable parce que c'est une vitrine mondiale. Bon, on connaît toute la logique en arrière de cela. Alors, je dirais que moi, ce que je vois, c'est que dans le fond, c'est cette commandite, ou plutôt cette propriété qu'a acquis Bell en devenant promoteur, mais aussi propriétaire du groupe de course Octane, c'est certain qu'ils sont un petit peu rentrés dans cette brèche-là, j'ai envie de dire. Bon, ils voyaient que les gouvernements allaient déjà payer, donc pour eux, c'était une aubaine. Ceci dit, ça fait plusieurs années que le promoteur du Grand Prix cherchait un commanditaire titre, parce que depuis l'époque des Players, d'Air Canada et toutes ces compagnies-là, il n'y avait plus de commanditaire titre qui était vraiment un vrai commanditaire, je dirais, local. Oui, il y a Heineken, il y a des compagnies comme ça, mais ça, c'est des compagnies qui commanditent la Formule 1. Donc, on va dire, bah, toi, tu commandais dans le package, je vais dire comme ça, de la Formule 1, il y a un certain nombre de Grands Prix qui sont commandités. Mais un vrai commanditaire canadien, il n'y en avait plus depuis plusieurs années. Donc, je dirais que Bell est rentré dans cette brèche-là, d'une certaine manière, c'est de dire, ben voilà, finalement, c'est payé en bonne partie par les gouvernements, et donc, nous, on va devenir le promoteur. C'est un... Financièrement, c'est très, très intéressant pour eux autres, c'est certain. Mais... reste le problème, entre guillemets, de se dire, est-ce que les gouvernements doivent ou pas commanditer des événements de sport et de loisirs? Mais comme je viens de dire, pour moi, à ce moment-là, il ne faut pas juste parler du Grand Prix du Canada, il faut parler de tous les autres événements de ce type.
Oui, ta nuance est vraiment importante, t'as raison. Moi, bon, par contre, c'est sûr que Bell doivent, ils sont quand même morts de rire là, financièrement dans le deal, mais ce que j'aime de ça, c'est vraiment pour les partisans. C'est super positif, là, on vient de s'assurer d'une stabilité, même d'une croissance de l'événement. C'est un soulagement aussi pour les gens qui avaient des billets depuis 2020. Avec Bell derrière l'événement, là, tout va être honoré. Ça, c'était loin d'être sûr avec Octane, qui avait un petit peu du mal à garder la tête hors de l'eau. Donc, je pense que pour l'événement, ça vient de solidifier le tout, là.
Oui, tout à fait. Puis il y a une petite chose qu'il faut pas oublier concernant les montants. On parle de 5 millions de plus que ça va coûter pour les éditions 2030-2031, mais on oublie de dire que en n'ayant pas présenté le Grand Prix à huis clos cette année-ci, il y a aussi l'économie d'à peu près 6 millions qui vient d'être faite parce que c'était ça qui était réclamé pour le Grand Prix.
C'est vrai que ça, on ne le nomme pas souvent, on ne le dit pas beaucoup.
Voilà, on ne le dit pas souvent. Donc, oui, effectivement, il y a 5 millions qui, ultimement, vont être dépensés dans ces deux éditions-là, mais il y en a 6 qui viennent d'être économisés parce qu'il n'y a pas eu l'édition 2021. Donc, je veux dire, à un moment donné, et là, on revient encore à ce que je disais tout à l'heure, c'est que est-ce que c'est normal ou pas que des gouvernements, que l'argent du contribuable serve à payer des événements de sport et de loisirs? Si on dit non, il faut le faire pour l'ensemble des événements, pas pour le Grand Prix du Canada uniquement, selon moi.
Tout à fait. Merci infiniment, Philippe. C'était un plaisir.
Ça m'a fait plaisir.
Bonne journée. C'était Philippe Brasseur, rédacteur en chef du magazine Pôle Position. Après la pause, on parle du repêchage de la NFL qui s'est étendu sur presque 3 jours, qui s'est terminé hier. Il y a un joueur des Carabins, Pierre-Olivier Lestage, qui n'a pas été repêché, mais qui a tout de même signé un contrat avec une équipe. Il vit un rêve présentement. Il est avec nous dans 3 minutes.